On va revenir sur ce texte d'un Corinthien où il est parlé des dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles, muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Alors quand nous lisons dans ce passage le don de la foi, à l'un est donné le don de la foi par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est? À l'évidence, on n'est pas en train de parler de la foi qui sauve, de celle qui vous a sauvé. Parce que si vous avez fait l'expérience de la repentance, vous êtes sauvé. Vous l'avez expérimenté, vous l'avez vécu. C'est quelque chose qui est réel pour vous, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais quand il est question de don, don de la foi, on parlera plutôt, bien évidemment, d'un don qui est communiqué par le Saint-Esprit et qui permet aux croyants de croire que Dieu va faire un miracle, que Dieu va faire une œuvre miraculeuse, quelque chose de miraculeux, des choses, vous l'avez compris, qui sont extraordinaires, pas des choses naturelles. Dans l'Ancien Testament, vous avez quelques exemples, le soleil et la lune qui s'arrêtent dans leur course suite à la prière, le don de la foi, il a cru que Dieu pouvait arrêter le soleil pour remporter la victoire sur ses ennemis. On se souvient de ce roi qui avait besoin d'un signe de la part de Dieu. Il a demandé que l'ombre recule sur les degrés. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le soleil a bougé dans le ciel. Ça a été miraculeux. Il a cru que Dieu pouvait faire ce miracle et il l'a fait. On parlera d'autres actions miraculeuses dans l'Ancien Testament. On pourrait parler de... Par exemple, Élisée, quand il va jeter de la farine dans le pot et que tout à coup ça va devenir sain, etc. Et souvent, vous verrez dans l'Écriture que la foi est associée à ces actions miraculeuses. Mais forcément, ça démarre par là. Si on veut voir un miracle, il faut bien y croire. Si j'y crois pas, ben je le verrai pas. Donc c'est sûr que les deux sont imbriqués, mais on va s'arrêter ce matin spécialement sur la foi. C'est la foi, me semble-t-il, qui peut transporter les montagnes. Regardez dans ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, et au verset 1er. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. » On parle bien de la même chose, on parle des dons. Si j'avais toute la foi, le don de la foi, capable de transporter les montagnes, c'est quelque chose qui est une réalité pour Dieu. La foi peut transporter les montagnes. Vous vous souviendrez certainement que Jésus l'avait enseigné, Jésus l'avait dit. Je vous cite quelques versets concernant cela. Les apôtres, à un moment donné, vont se tourner vers Jésus, un petit peu stressés de voir qu'ils avaient du mal à avancer, ils avaient du mal à croire, c'était difficile pour eux. Alors ils vont s'adresser à Jésus avec une prière qu'on aurait tous formulée. Je pense que cette prière, on l'aurait toute faite. Luc chapitre 17, verset 6. « Seigneur, augmente-nous la foi. » Mais Jésus ne va pas augmenter leur foi, il va simplement leur dire « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cet arbre, à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Je suis sûr que certains disent « Oui, mais c'est une image. » Ah ouais, peut-être, mais c'est écrit quand même. Dans l'évangile de Marc, on a un petit peu la même chose. Au chapitre 11 et au verset 22, Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quand il a fallu choisir des hommes qui allaient gérer l'église de Jérusalem, matériellement parlant, gérer, on va dire, les choses pratiques, les choses communes, on a prié et on a choisi sept hommes, parmi lesquels Étienne, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas. Mais la particularité de ces gens-là, c'est qu'ils devaient avoir des qualités, ou en tous les cas refléter un certain état d'esprit et une certaine personnalité. Mais ce qu'on notera, notamment de ces gens-là, et on le dira en parlant d'Étienne notamment, mais les autres étaient évidemment du même acabit, la Bible dit, Actes chapitre 6, verset 5, « Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. » Vous comprenez que si vous avez accepté Jésus dans votre cœur, c'est la foi qui vous a permis de croire. C'est la foi qui vous a sauvé. Mais là, on parle d'un autre degré de foi, autre chose, ce qui peut permettre de vivre beaucoup plus dans le miraculeux. J'aimerais vous dire ce qui est écrit à l'écran. Quand Dieu, écoutez bien, quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, soyons sûrs qu'il fera ce qu'il a dit. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, soyons sûrs qu'il fera ce qu'il a dit. Si Dieu dit, il fait. Si Dieu dit, il fait. Quand Dieu promet, il fait. Je crois que on est tous convaincus que quand Dieu dit quelque chose, il va le faire. On est tous convaincus de ça. Le problème, c'est que dans la réalité, on ne voit pas toujours. Et si on ne voit pas, c'est que peut-être sa main a été arrêtée en cours de route parce qu'on a manqué de foi. On a manqué de foi. On savait que c'était vrai, mais on a douté, on n'était pas persuadé, on était un petit peu, perplexe. On ne savait pas trop comment les choses allaient se faire, si c'était possible. Mais regardez quand même ces exemples des évangiles. Ces hommes, ces femmes étaient remplis de foi. On parle de ce centenier dans cet évangile de Matthieu, au chapitre 8. Ce centenier qui avait un serviteur malade, il va demander à Jésus de guérir son serviteur. Et Jésus va se proposer d'aller dans la maison de cet homme. Jésus va dire, bon, mais je viens, je vais aller guérir cet homme. Et la réaction du centenier est toute simple, non, dis seulement un mot et je sais que mon serviteur sera guéri. Si ça, c'est pas la foi. Dit seulement un mot. Mais il va expliquer pourquoi il dit cela. Ce n'est pas pour ne pas déranger Jésus. Mais il dit, écoute, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Je ne suis pas digne, je suis un centenier, je suis un soldat, je viens d'un autre arrière-plan, ma maison est sale, ma maison est souillée, ne prends pas tant de peine, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais par contre, j'ai appris une chose avec mon travail, avec mon métier, c'est que je suis soumis à des ordres. Et je suis capable de donner des ordres, parce que je suis un soldat. Il y a des gens au-dessus de moi, mais il y en a en dessous. Et quand je dis à l'un, fais cela, il le fait. Quand je dis à l'autre, va là-bas, il ira. Eh bien, je sais que si toi, tu dis un mot, tu chasses la maladie s'en ira. C'est ça que Jésus a approuvé. C'est pas que cet homme ait dit, allez, un seul mot, ça me suffira. C'est qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête pour arriver à cette conclusion. Il avait la foi. Il était persuadé qu'un mot pouvait suffire. La femme à la perte de sang a eu une guérison extraordinaire. Elle a vécu quelque chose d'extraordinaire, mais qui n'est pas conventionnel. Elle dit, si je touche seulement le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Et ça a marché. Si ça, ce n'est pas la foi, qu'est-ce que c'est? Ce n'était pas dans les règles, ce n'était pas dans les principes, ce n'était pas écrit dans les livres, mais elle s'était dit ça. Si seulement par derrière j'arrive, il y a de la foule, il y a du monde, il y a de la pression, mais si j'arrive juste à toucher le bord de son vêtement, je sais que Dieu va me guérir. Quelle foi, frères et sœurs, quelle foi. Je remarque que dans ces deux exemples, il y a un petit mot qui revient, seulement. Dis seulement un mot. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Ils étaient très exclusifs, mais quelque part, c'était suffisant pour eux. Moi, j'aimerais franchement qu'on soit habité de la même foi. Hein. Non. Moi, je voudrais vraiment manifester la même foi. Seigneur, un mot, juste un mot de ta part. Que dire de cette femme dont la fille était tourmentée par un démon qui va venir vers Jésus? Vous connaissez l'histoire, elle est libanaise, syrophénicienne. Et elle supplie Jésus de faire quelque chose, Jésus ne dit rien, pas un mot. Les disciples vont s'agacer en disant « Renvoie-la, elle crie derrière nous, ça fait du bruit. » Et Jésus dira « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. » Cette femme de répondre « Oui, d'accord, mais s'il y avait juste quelques miettes, si ça c'est pas la foi, juste quelques miettes, je m'en contenterai largement. Je suis persuadé qu'avec quelques miettes, il y aura largement de quoi guérir ma fille qui est à la maison. » Quelle foi! Ben, elle a été exaucée. Hein. Dans tous ces exemples, bien souvent, Jésus a loué la foi de ces gens-là, a considéré qu'ils avaient une foi qui était conséquente, une foi qui était réelle. J'aurais pu parler des 10 lépreux, à qui Jésus dira « Allez vous montrer au sacrificateur » et les 10 y vont. Et pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris. C'est même pas la fin qui a prouvé la guérison, c'est juste leur intention d'y aller. On pourrait rendre multiples témoignages de bénédictions comme ça. Un jour, Jésus rencontre deux aveugles viennent à la rencontre de Jésus et ils ont besoin, ils réclament la guérison et Jésus leur pose la question « Croyez-vous que je puisse le faire ?» La réponse, elle fuse immédiatement « Oui !» Ben, ils sont guéris. Certains diraient « C'est tout bête. » Mais non, c'est tout intelligent. C'est pas tout bête. C'est tout intelligent, ça. Ils l'ont cru. Et ça s'est révélé. Et ça s'est manifesté. J'insiste là-dessus pour vous rappeler ce que Jacques écrivait. On a souvent prié pour les malades en les oignant d'huile, parce que c'est l'Écriture qui nous invite à faire cela, mais quand même, souvenez-vous du texte, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile, au nom du Seigneur Jésus, la prière de la foi sauvera le malade, guérira le malade, la prière de la foi. On peut prier, oindre d'huile. Je me souviens de cet exemple de quelqu'un un jour qui a été appelé au chevet d'une personne malade et la personne était tellement malade que c'était question de vie ou de mort. Et lui, on ne lui avait jamais demandé d'aller prier pour quelqu'un. Il était un peu dépassé, il ne savait pas comment faire, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et il avait lu dans la Bible qu'il fallait oindre d'huile la personne. Alors elle a regardé ce qu'elle avait sous la main, elle a pris la bouteille d'huile qu'elle avait à la maison. Et elle a été chez la personne, et la personne était en train de mourir, et ils ont dit à ceux qui étaient là, on va prier, et on va faire ce que Jésus a demandé, on va la oindre d'huile. Et elle a renversé toute la bouteille d'huile. C'est authentique, hein? Et la personne a été guérie. Mais vous croyez que c'est parce qu'il a vidé la bouteille d'huile qu'elle a été guérie? Ah, peut-être, hein? Peut-être qu'il s'est dit, la prochaine fois, il me faut une bouteille d'huile, sinon ça ne marchera pas. C'est la foi, la prière de la foi sauvera le malade. Certains, on ne peut pas les atteindre, ils sont loin. Mais vous ne croyez pas que Dieu pourrait les guérir. Un jour, quelqu'un est venu vers Jésus et a dit « J'ai laissé à la maison quelqu'un de gravement malade. S'il te plaît, guéris-le. » Et la personne a vu l'intervention de Dieu. Quand elle est rentrée à la maison le lendemain, vous connaissez le passage, hein, on lui a dit que l'enfant vivait, que l'enfant était en vie. Et il s'est assuré « Depuis quand l'enfant va mieux ?» Et on lui a dit, hier à telle heure. Et il s'est souvenu que c'était exactement à cette heure-là que Jésus lui avait dit, va ton fils, vis. Va ton fils, vis. Je crois que Dieu veut vraiment nous encourager dans la foi et, soit dit en passant, on en a besoin. Alors ma question, elle est réelle. Croyez-vous vraiment que Dieu puisse faire encore quelque chose? Avez-vous encore la foi? Avez-vous réussi à vaincre vos doutes face aux difficultés, face aux problèmes qui sont sans solution? Avez-vous vaincu vos découragements? Acceptez-vous de croire que, encore aujourd'hui, c'est le temps des miracles? On a chanté tout à l'heure, on a commencé le culte avec ce cantique, « Il est Seigneur, il règne dans les cieux, montre ta puissance, envoie ta puissance. » Alors pourquoi Dieu ne le ferait pas? Pourquoi Dieu n'agirait pas? Pourquoi Dieu ne se manifesterait pas? Dans 1 Corinthiens, il est dit à l'un est donné une parole de foi, à l'autre une parole de connaissance, à l'autre le discernement des esprits, à l'autre. Ça ne veut pas dire que Dieu est exclusif encore en disant « toi tu auras la foi, toi tu auras le discernement, toi tu auras la sagesse et toi tu n'auras rien. Parce que j'ai tout donné, donc il n'en reste plus. » Ça ne marche pas comme ça. Hein. Alain ait donné une parole de foi parce que c'est cette personne-là qui en a besoin ce jour-là, à ce moment-là, vis-à-vis de la situation qu'il rencontre. Peut-être que demain, il aura besoin d'autre chose. Eh bien, à ce même frère, à cette même sœur, à l'un, à l'une, Dieu donnera un autre don à ce moment-là. En fait, on n'est pas propriétaire de ces dons. Ça a été une discussion dans l'église tunisienne. Mais Dieu nous donne des dons, donc on les utilise comme on veut. Non, non, Dieu ne nous donne rien. Il nous utilise. On devient un canal. Ça veut dire que si je suis un canal, je peux aujourd'hui manifester la foi et demain manifester la sagesse et après-demain les langues et ailleurs encore la prophétie. Dieu peut tous nous utiliser. Et quand la Bible dit à l'un est donné, à l'autre, à l'autre, à l'autre, ça ne veut pas dire que certains ont droit et d'autres pas. Par contre, vous pouvez entrer dans cette vie de l'esprit ou vous pouvez rester à côté. Vous pouvez la refuser, simplement par manque de foi. C'est pour ça que les questions sont intéressantes. Et je voudrais vraiment que vous y répondiez tout au fur et à mesure de ce que l'on va méditer maintenant. Parce que je me souviendrai que Jésus dira dans l'évangile de Marc, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, malheureusement, sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Frères et sœurs, cette parole, Jésus peut nous la dire ce matin, c'est la même. Elle n'a pas vieilli. Elle n'a pas vieilli. Quels sont les signes? Ils parleront de nouvelles langues. Ça nous ramène au baptême de l'esprit aussi, ça. C'est intéressant. Ils saisiront des serpents. Ça ne leur fera pas de mal. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils seront épargnés. Mais ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Est-ce que tu as encore la foi, mon frère, ma sœur, pour croire que Dieu peut te guérir? Est-ce que tu as encore la foi, mon frère, ma sœur, pour croire que Dieu va guérir celui qui est malade à la maison, ton voisin, ta voisine, quelqu'un qui t'est proche? Est-ce que tu es encore capable de croire que Dieu va faire un miracle? Et si demain, on venait te dire, tiens, tu te souviens, telle personne, on a prié pour elle, elle a été guérie. Est-ce que tu vas dire, non, c'est pas vrai? Témoignage cruel de ce qui habite notre cœur, hein? Cette espèce de découragement perpétuel où on n'y croit plus, et le jour où on nous dit que c'est arrivé, on n'en revient pas. C'est plutôt quand ça n'arrive pas qu'on ne devrait pas en revenir. C'est plutôt quand ça n'arrive pas qu'on devrait se dire « Mais ce n'est pas possible, non, je ne te crois pas. Il n'a pas été guéri, mais on a prié. Elle n'a pas été guérie, mais on a prié. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est ça qui devrait nous interpeller, pas l'inverse. Alors, il y a dans l'Écriture des textes qui sont assez incroyables. Et j'aimerais qu'on en lise un de ceux-là. C'est dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 37. Et à partir du verset 1er, volontairement, je veux laisser cette diapo à l'écran pendant qu'on va lire ce texte. Et au fur et à mesure qu'on lit ce texte, mon frère, ma sœur, au fur et à mesure que tu lis cela, dis-toi très honnêtement dans ton cœur, est-ce que tu y crois à ce texte? Est-ce que tu crois que c'est arrivé, même si c'est une vision, même si c'est une image? Est-ce que concrètement, une telle chose ne peut pas arriver aujourd'hui, physiquement parlant? Est-ce que Dieu est capable de faire une telle chose? Est-ce que vous êtes capable encore ce matin de vaincre vos doutes, de vaincre votre découragement? Est-ce que vous êtes capable de croire, acceptez-vous de croire que Dieu puisse faire encore quelques miracles? La main de l'Éternel fut sur moi, Ézéchiel 37, verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Et je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, Et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Amen. Le verset 11, c'est finalement ce qui nous ramène à cette réalité. C'est un défi incroyable, mais l'essentiel demeurait. Aurez-vous la foi ? Verset 11, ils vont dire, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est un défi incroyable qui leur est lancé. À ce peuple d'Israël, il y a la déportation et il y a la future déportation, parce qu'on n'en est qu'à la moitié. Donc ça va se compliquer dans les années à venir. Mais le fait est que ces gens sont arrivés à cette conclusion. En fait, ils sont vivants, mais la vision qu'Ézéchiel a, c'est exactement la situation de ces gens-là. Eux, ils se voient vivants, mais en fait, ce sont des os morts, secs, éparpillés, dans une vallée remplie d'ossements. Ils ne sont pas mieux que ça. Ça me fait penser à ce texte de l'Apocalypse, où il est dit, tu penses que tu es vivant, mais tu es mort. Tu dis que tu es riche, mais tu es bien pauvre. Tu dis que tu vois clair, achète du collier quand même. Il y a des choses qui ne vont pas bien. On est exactement dans la même situation. Eux, ils se satisfont, ils ne sont certainement pas très heureux, mais ils se disent, on est encore vivant. Sauf qu'à force de découragement, on finit par perdre espoir. Et regardez dans quel état ils sont. Nos os sont desséchés, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Si vous voyez un cadavre, malheureusement mort depuis longtemps, et qu'il ne reste que des os, vous n'allez pas vous dire « je vais prier pour qu'il revienne à la vie hein. ». Mais eux, c'est pareil. Il n'y a plus de vie. C'est fini. La vie a disparu. La vie est partie de là. Notre espérance est détruite. Ça veut dire que pour eux, il n'y a plus d'avenir. Plus d'espérance, plus d'espoir, plus d'avenir. Et troisième chose, nous sommes perdus. Il n'y a plus de solution. C'est contre ça que je voudrais que vous vous battiez ce matin. Quand vous dites « il n'y a plus d'avenir », il n'y a plus de solution, il n'y a plus de vie, c'est mort. Je voudrais que vous vous battiez contre cette idée-là. Parce que à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. La preuve en est, dans ce texte, il s'est quand même passé des choses assez incroyables. Et je crois que l'Église que nous formons, c'est l'Église de Jésus-Christ quand même, ne peut pas accepter cette fatalité. Parce que si demain, il ne se passe plus rien dans l'Église, il n'y aura plus de conversion. Et s'il n'y a plus de conversion, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Et s'il n'y a plus de vie, ça veut dire qu'il n'y a plus d'avenir. Et s'il n'y a plus d'avenir, ça veut dire qu'il n'y a plus de solution. Est-ce que vous croyez que c'est le reflet de l'Église que Jésus a suscité sur la terre ? Ça n'a jamais été ça. D'ailleurs, on n'a pas le droit de céder à cette fatalité, on n'a pas le droit de céder à ce découragement. Un croyant ne devrait pas accepter cette fatalité-là. Ce n'est pas possible, parce que de toute façon, il existe une promesse. Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Elle est appelée à la vie, elle est appelée à rayonner, elle est appelée à manifester la gloire de Dieu, elle est appelée à manifester la puissance de Dieu et nous sommes appelés à cela. Alors la seule chose qui peut empêcher Dieu d'agir, c'est notre manque de foi. C'est parce que je ne vais pas prier. C'est parce que je vais arrêter de croire que Dieu fait des miracles. De toute façon, j'en ai jamais vu. Alors, pensez bien, les miracles, ça fait longtemps que ça a disparu. C'est ce que j'ai entendu la semaine dernière. Malheureusement, je ne l'ai pas entendu qu'en Tunisie. Je l'ai souvent entendu, ça. Les miracles, on n'en voit pas. C'est triste. Ça devrait crever notre cœur que de dire cela. Parce que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. En tous les cas, il en fait. Il n'en fait peut-être pas ici, malheureusement, mais il en fait ailleurs. Et moi, je veux qu'il continue à en faire ailleurs, mais qu'il en fasse ici aussi. Est-ce qu'on est capable de croire encore que le temps des miracles, c'est pour maintenant? Vous êtes devant la vallée d'ossements. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? D'ailleurs, Dieu est un petit peu piégeux avec Ézéchiel. Il lui pose une question intéressante. Il lui dit, Ézéchiel, à ton avis, peuvent revivre ces eaux-là? Ézéchiel, il a envie de dire non. Mais Ézéchiel, il est spirituel. Il a peur de se faire taper sur les doigts. Et il dit, toi, tu le sais. Toi, tu sais. C'est malin, hein? Mais c'est bien qu'il ait dit ça. C'est bien. Parce que finalement, il ne fait dire que la vérité. Lui, il ne sait pas. On peut imaginer qu'il a du mal à le croire. Parce que nous, en tous les cas, on serait dans son cas. On aurait dit la même chose, Seigneur. Toi, tu peux tout faire. Non, mais toi, est-ce que tu crois? Toi, tu peux tout faire. Non, mais est-ce que tu ne penses pas que ces eaux pourraient revivre? Écoute, je te laisse faire. On n'ose pas dire qu'on n'y croit pas. Parce qu'on a honte. On n'ose pas dire qu'on n'y croit pas, parce que c'est vexant. Mais la réalité, c'est ça. On est bien loin d'y croire, bien souvent. J'aimerais vous laisser cette parole du prophète Jérémie, chapitre 3 des Lamentations, versets 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, frères et sœurs. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et béni soit Dieu, elles se renouvellent chaque matin. Alors, il y a quand même... dans ce texte, des choses intéressantes de différentes couleurs. Vallée remplie d'ossements, complètement sec. Est-ce que ça peut revivre? J'en sais rien. Ça, c'est le constat. Et puis, il y a l'action de Dieu. Prophétise, prophétise, parle à l'Esprit, viens, souffle, qu'il revive. Et puis, il y a ce que Ézéchiel a fait. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Dans cette vision, il y a tout de même l'essentiel, et l'essentiel dans cette vision, vous l'avez à l'écran, à savoir qu'il y a tout ce qu'il faut pour un miracle. Dans ce passage qu'on a lu, ne vous en déplaise, il y a tout ce qu'il faut pour un miracle. Premièrement, il y a Ézéchiel. Ben oui, ça va passer par lui. Ézéchiel, il est d'une famille de sacrificateurs, et il sera lévite, ou il est déjà lévite. En tous les cas, il sert Dieu. Et est-ce que vous n'êtes pas, vous, un peuple de sacrificateurs? Apocalypse nous dit cela. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un peuple de serviteurs. Ça veut dire qu'on entre dans la présence de Dieu et on va offrir notre sacrifice. Ça signifie également qu'on est dépositaire d'un message. On est dépositaire d'un témoignage. Et tout cela, ça peut et ça doit se communiquer, bien évidemment. Donc, il y a Ézéchiel, un homme qui est engagé dans le service de Dieu. J'espère que vous êtes encore engagé dans le service de Dieu, personnellement. Il y a une vision, la vallée remplie d'ossements. Je vous l'accorde, elle est terrible. Mais il y a au moins une vision. Ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de vision. C'est que, qu'est-ce que tu crois que Dieu peut faire? J'en sais rien. Tu ne crois pas que Dieu peut... Je ne sais pas. Il n'y a plus de vision. Il vaut mieux avoir une vision comme ça que pas de vision du tout. Parce qu'avec une vision comme ça, ça vous remue les tripes et vous avez envie de faire quelque chose. Sans vision, faute de révélation, faute de vision, la Bible dit, le peuple périt. Ça m'a fait penser ceci à ce que Néhémie avait expérimenté. Quand Néhémie a appris en quel état se trouvait Jérusalem, il a pleuré. Il a été tellement blessé. Et il a demandé une dérogation à son maître pour aller faire un tour à Jérusalem. Et quand il arrive à Jérusalem, il nous est dit qu'il va sortir la nuit et il va faire le tour de la ville. En fait, il voulait se rendre compte. Il voulait apprécier cette situation-là. Avoir une vision et considérer qu'est-ce qu'il faut faire de cette vision. La présence de Dieu, puisque c'est Dieu qui l'a conduit dans cette vision-là et Dieu est là. Est-ce que tu crois que ces eaux pourraient revivre? Et puis, il y a une armée, parce que c'est une armée fort nombreuse. Au début de la prophétie, au début de la vision, je vous l'accorde, l'armée, elle est en mauvais état. Il n'y en a plus un debout. Hein. Ils sont tous par terre. C'est même des squelettes. Mais c'est une armée. Quand vous voyez une armée comme ça, une armée en ordre de bataille avec les lances, les boucliers, etc., vous savez quelle armée il faut affronter, si possible. L'armée de squelettes, ça ne devrait pas me faire du tort. Ce sera plus facile à vaincre, une armée qui ne se bat plus, qui est morte. Où il n'y a plus de vie à l'intérieur, c'est plus facile à vaincre, mais quelque part, L'armée, elle y est, mais elle est morte. Oui, mais elle y est, l'armée. Elle est en mauvais état, mais elle y est. Et quand je vous regarde, je me dis que l'armée, elle y est. Peut-être en mauvais état, mais elle y est. Ouais. Peut-être en mauvais état, mais elle y est. Elle y est. Alors, est-ce que Dieu ne peut pas souffler? Est-ce que Dieu ne peut pas rendre la vie à nos désespoirs, à nos malheurs, à nos souffrances, à nos douleurs? Est-ce que Dieu ne peut pas rendre la vie? Et finalement, il y a une parole de Dieu qui va sortir. Elle est inspirée. Elle est inspirante, hein, forcément. Et puis, il y a l'action du Saint-Esprit qui est efficace, qui est puissant. Ce que je vois, frères et sœurs, ne doit jamais me décourager, mais devrait me motiver. Quand je vois que ça ne marche pas, quand je vois qu'il ne se passe rien, quand je vois, ça ne devrait jamais me décourager. Ça devrait me motiver à prier davantage, prier davantage, prier davantage. On y reviendra une autre fois, mais vous le savez très bien, le seul recours, c'est la prière. Ce n'est pas autrement que ça marchera. Ce n'est pas par des incantations, c'est par la prière. Si mon peuple s'humilie, s'il prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors j'en viens à ce qu'il fallait faire. Il fallait faire un acte de foi. Ézéchiel est obligé, parce que Dieu le lui demande, de passer au milieu de ses morts. En tant que sacrificateur, en tant que lévite, en tant qu'homme consacré, il ne devait même pas approcher un mort. Même quand il était encore tout là, hein, c'est-à-dire avec la chair, etc. Quelqu'un qui venait de mourir, il n'avait pas le droit de l'approcher. Sinon, il était impur pendant des jours. Là, on est dans une vision, il y a ce caractère-là, mais je crois qu'il y a une volonté de la part de Dieu, c'est qu'Ézéchiel aille se rendre compte à quel degré se situe la mort, qu'il aille se rendre compte dans quel état se trouve cette armée, dans quel état elle se trouve. Frères et sœurs, regardez, regardez autour de vous. Si vous avez regardé de loin, allez regarder de près. Essayez de ressentir, si c'est possible, examiner, pleurer comme Néhémie sur l'état actuel du monde, de ceux qui sont malades, de ceux qui nous entourent, quelquefois même de l'Église qui a perdu la flamme, qui a perdu l'envie, qui a perdu le zèle. Quand Dieu dit à Ézéchiel, alors, ça va marcher ou pas? Et que Ézéchiel dit, moi j'en sais rien, c'est un aveu de faiblesse, manque de foi. Il est trop petit, Ézéchiel, pour une telle dimension miraculeuse, il est trop petit. Sauf que Dieu va pas le décourager, mais Dieu va l'encourager. Frères et sœurs, on n'a jamais tort de dire à Dieu, pardonne mon manque de foi. On a plutôt tort de ne pas l'avouer. Mais on n'a jamais tort de le dire, parce que Dieu nous encourage toujours. Et Dieu nous relève toujours. C'est exactement ce qui s'est passé. Je m'aperçois qu'il a fallu faire un acte de foi, hein, parce qu'Ézéchiel doit obéir à Dieu. Il doit proclamer la vérité que Dieu lui demande de proclamer. Il doit parler à ses squelettes, il doit parler à ses os qui sont éparpillés. Et quand il va le faire, je ne sais pas s'il a ouvert les yeux, s'il a fermé les yeux en disant « ce que je fais est complètement dingue, complètement fou », mais quand il a ordonné qu'il se passe quelque chose, quand il a prophétisé sur ses os en disant « je vais faire entrer en vous un esprit », vous vous rendez compte, il parle à des morts. Arrêtez de parler à des morts, certains vous diront. Ça ne sert à rien, il est mort. Mais lui, il parle à ses morts. Dieu va faire entrer un esprit en vous. Il va vous rendre la vie. Mais s'il est un peu conscient, s'il est un peu réfléchi, il va se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et combien de fois nous nous sommes mis à genoux et nous avons prié, et en plein au milieu de notre prière, il y a une pensée qui vient droit de notre ennemi, qui vient directement du diable, et qui nous dit, mais qu'est-ce que tu es en train de demander? Ça ne va pas, non? Qu'est-ce que tu es en train de réclamer? Tu n'es pas un peu fou? Tu crois que ça va marcher? Tu crois que tu vas y arriver? Tu crois qu'il y aura un résultat? Mais regarde, c'est mort, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. C'est mort, c'est mort. Arrête! Et on s'est souvent arrêté. Honte à nous, c'est souvent arrêté. On n'y a plus cru. On s'est dit, ben ouais, c'est vrai, hein. Après tout, j'étais rempli d'un bon élan, mais j'ai exagéré peut-être. Ça ne peut pas marcher. Mais Ézéchiel y a été, et quand il prophétisait, j'essaye d'imaginer ce qu'il pouvait bien penser quand il a prophétisé sur ses squelettes, sur ses bouts d'os, etc. Un esprit va rentrer en vous, et vous vivrez, je mettrai en vous mon esprit, vous vivrez. Il a fait cela, il a juste prononcé ces mots, et tout d'un coup, il y a eu du bruit. Tout d'un coup, il s'est passé des choses. Et il a vu que, clac, 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 les corps se réorganisaient, bizarrement, les fémurs retrouvaient le bout de hanche, etc., tout ce qui leur revenait, enfin bref. Et tout à coup, y a eu les nerfs, essayez de vous représenter ça, quoi. Et puis, ce qui s'est fait dans un sens se reconstruit dans l'autre. Et d'un coup, il voit ces corps qui sont là, il les voit tout fait, tout beau, tout parfait, des visages, bref, c'est quand même incroyable. Quand Dieu a guéri quelqu'un d'un cancer et que cette personne a vomi sa tumeur, quand Dieu a guéri une personne atrophiée et a redisposé les os, etc., il les a fait craquer, il les a remis dans un autre sens, il a fait les choses à la perfection. Parce que dans le fond, avec Dieu, il y a service après-vente, hein. Mais oui, il peut tout faire. Il a les pièces d'origine, il peut tout faire. Et nous, on se dit, non, jusque-là, d'accord, mais là, c'est pas possible, n'exagérons pas quand même. Mais Dieu peut tout faire. Ce qui était impossible s'est réalisé ce jour-là. À quelqu'un qui dirait ce matin, j'ai pas de solution, j'ai plus d'avenir, c'est terminé, c'est fichu. J'aimerais te dire, avec Dieu, c'est jamais fichu. Avec Dieu, c'est jamais terminé. Dieu peut le faire. Alain, Dieu donnera ce matin le don de la foi. À plusieurs, j'ai envie de dire à chacun individuellement, Dieu veut vous donner le don de la foi ce matin, afin d'obéir simplement à ce que Dieu dira. Regardez ce qui s'est passé. L'armée était là. La Bible dit que c'était toute une armée qui était à terre encore. Ça suffisait pas parce qu'il n'y avait pas en eux d'esprit. Alors il a fallu le souffle de Dieu, bien sûr. Il a fallu que l'esprit agisse. Et c'est là où la vie est revenue et c'est là où ça a été miraculeux. Il nous est dit qu'il a fallu que l'esprit vienne. Esprit, viens. Des quatre vents soufflent sur ces morts et qu'ils revivent. On a chanté tout à l'heure, viens, Esprit de Dieu, viens. Remplis-moi, remplis-moi, restaure-moi, régénère-moi, renouvelle-moi, fais-moi goûter à ta présence. On connaît cet autre cantique, souffle, souffle de Dieu, viens. Qu'est-ce que ça signifie? Ce ne sont pas des mots, hein. C'est une action. Il y a quelque chose. Il y a vraiment une action derrière cela. Alors voyez-vous, et il me semble que c'est bien là que le bât blesse forcément, c'est que le plus difficile est de croire Dieu et de ne pas douter de ses promesses. On croit tous en Dieu, mais on a du mal à croire Dieu, ce qu'il est capable de faire. C'est ce qu'on reproche à ceux qui ont du mal à accepter le salut. Tu crois en Dieu, mais tu n'arrives pas à croire qu'il te sauve. Mais quelque part, on est souvent un petit peu dans le même état, dans la même situation. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, et au verset 12, je vais vous le citer, il nous est parlé de la parole de Dieu. Et il nous est dit, la parole de Dieu, c'est comme une épée à deux tranchants. Vous connaissez le passage, hein ? Mais notez quand même cette expression, car la parole de Dieu est vivante et efficace, Hébreux 4, verset 12, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est vivante et efficace. Le mot qui est utilisé, c'est le mot en grec qui correspond à énergie, si vous voulez. Energes, je ne sais pas comment on le prononce exactement, mais la définition c'est être capable de faire, être active, efficace, puissante. Et quand il est dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, c'est un seul mot en grec, un seul mot. Mais curieusement, c'est la seule fois où ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament, curieusement, ce mot a été repris, puisque c'était un mot grec, il était utilisé. Mais vous savez dans quoi, en général, enfin pratiquement, oui, exclusivement, on a utilisé ce mot. Ça, c'est très étonnant. On l'a utilisé dans le domaine médical. C'est étonnant, hein ? C'est-à-dire que ce mot était utilisé pour parler des traitements médicaux, ou de l'influence de la médecine. C'est comme si, finalement, on disait que la parole de Dieu, pour vous, chrétiens, ça doit avoir comme repère que c'est aussi efficace que ce que la médecine est capable quelquefois de faire. Alors ça me surprend, parce que la foi, c'est quelquefois mis en opposition avec le côté médical. Et c'est sûr que si on est soigné avec un médicament, on pourrait être soigné miraculeusement. Quelquefois Dieu l'a utilisé, on sait très bien que Dieu utilise la science. Mais ce que je trouve assez incroyable, c'est que Dieu est en train de dire à ces chrétiens, autant vous avez confiance à ce que la médecine est capable de faire, et vous dites, en certains domaines, elle est efficace et elle est puissante. Elle est efficace, elle est active, ça marche. Eh bien, puissiez-vous dire la même chose de la parole de Dieu? Puissiez-vous, frères et sœurs, dire la même chose de la parole de Dieu? Et quand je lis une promesse, je devrais être capable de me dire, c'est aussi puissant et efficace que les feralgans dont je crois aux vertus, etc. Sinon davantage, bien évidemment. Mais c'est quand même étonnant que jamais dans la Bible on n'utilisera ce mot, et ce mot qui est très terre-à-terre, finalement, pour parler de tout ce que les hommes sont capables de faire, Dieu se l'attribue en disant, regardez, ma parole, elle est aussi puissante que cela. Et j'ai envie de dire, bien au-delà, efficace. Ça m'amène à dire, pour la version Quenne, la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur, plus incisive. Elle pénètre, elle discerne, elle révèle les sentiments et les penchants du cœur. Quand il est parlé de souffle, dans le texte d'Ézéchiel, le mot qui est utilisé, ça fait penser à la vie, parce que la vie est entrée en eux. Quand Dieu dit à Ézéchiel, dit à l'esprit, souffle sur ses morts. C'est le même mot qui est utilisé pour Adam, quand Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie et qu'il est devenu une âme vivante. C'est le même mot. Donc on voit bien que c'est ce souffle qui vient de Dieu qui donne la vie. Mais derrière cela, il y a le côté vie, et ça veut dire que pour être vivant, il faut que je respire et il faut que j'expire. C'est les deux. Si je fais que respirer, à un moment donné, ça ne va pas marcher. Et si je fais qu'expirer, je vais pour de bon expirer. À un moment donné, ça va s'arrêter. J'ai besoin des deux. C'est mécanique. Eh bien, ça signifie ni plus ni moins que la parole de Dieu, c'est à la fois souffle et respiration. Souffle et respiration. C'est, je ne sais pas comment vous le dire pour que ça veuille dire un sens. Cette parole, elle respire et elle souffle Dieu lui-même. Elle respire cette parole, toutes les promesses de Dieu, et elle souffle cette dynamique de Dieu, ce qui vient de Dieu, ce que Dieu procure. Ça veut dire que j'ai aucune excuse pour ne pas croire au don des miracles, au don de la foi, parce que j'ai tout pour y croire. Il y avait l'essentiel pour Ézéchiel, vous avez compris ? Il y avait l'homme, il y avait Dieu, il y avait la vision, il y avait le problème, mais il y avait l'esprit, il y avait tout. Il suffisait simplement à Ézéchiel de croire et de le croire véritablement. Alors, une fois qu'il a prophétisé une deuxième fois, il nous est dit qu'il a vu les choses se faire. Et tout à coup, il a réalisé que c'était une armée qui se tenait sur ses pieds. Avant, ils étaient couchés, il n'y avait pas de vie. Mais dès qu'ils ont pris vie, instantanément, ils se sont levés. Et l'armée, elle était debout. Et j'aime bien cette expression, elle était nombreuse. Elle était très nombreuse. Plaise à Dieu qu'au milieu de nous, l'armée de ceux qui manifesteront les dons spirituels, la foi et les autres dons, que cette armée soit nombreuse et de plus en plus nombreuse jusqu'à chacun d'entre nous, frères et sœurs. Je ne peux pas laisser à un autre le soin d'avoir la foi pour moi, ce n'est pas juste. Je ne peux pas laisser à un autre le soin d'être béni et moi je ne le suis pas parce que Dieu donne aux uns et Dieu ne donne pas aux autres, ce n'est pas vrai. Dieu donne à tout le monde et je veux croire qu'il peut nous donner. Alors avec Dieu, souvent il n'y a plus qu'à contempler, il n'y a plus qu'à expérimenter, il n'y a plus qu'à oser la foi. Il n'y a plus qu'à se libérer de ses doutes, de ses peurs, de ses découragements et de ses craintes et de son incrédulité. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Qui, ce matin, je conclue, qui veut grandir dans la foi? Levez votre main. C'est tout? Qui veut saisir les promesses de Dieu ? Levez la main, voir. L'apôtre Pierre, première prédication dans le livre des Actes, il dira « Repentez-vous, afin que des temps de rafraîchissement vous soient donnés de la part de Dieu. » Ça marche pour la conversion, ça marche pour le renouvellement du chrétien. Alors je vous repose ces questions-là, et si vous vous sentez concerné, j'aimerais que simplement, si vous vous sentez concerné, hein, que vous vous leviez à votre place, parce qu'après on va prier. Qui veut grandir dans la foi ? Qui veut saisir les promesses ? Qui veut manifester le don de la foi ce matin ? Et qui veut croire que le malade est guéri, que l'incroyant est convaincu, que le pécheur est sauvé, et que celui qui est dans la détresse retrouve espoir ? Non, nous refusons l'idée qu'il n'y a pas d'avenir pour l'Église, nous refusons l'idée qu'il n'y a pas de vie dans l'Église, nous refusons l'idée qu'il n'y a pas de solution pour l'Église, c'est faux. Nous avons la solution, Dieu nous a tout donné et nous pouvons croire qu'il va agir maintenant. Alors est-ce qu'on pourrait ensemble élever nos voix ? Est-ce qu'on pourrait tous ensemble élever notre voix maintenant ? Est-ce qu'on pourrait demander à Dieu sa grâce ? Est-ce que vous voulez bien prier pour vos besoins ? Là, maintenant, à haute voix, est-ce que vous voulez bien prier pour la délivrance, pour la guérison, pour la liberté de ceux pour lesquels vous invoquez Dieu depuis des mois, depuis des années peut-être ? Est-ce que vous voulez élever votre voix ? Et ensemble, nous allons faire monter vers Dieu notre cri de détresse, notre cri de douleur, mais notre cri de foi également, en disant « Tu viens maintenant, Seigneur, et tu manifeste ta puissance. Tu viens maintenant, Seigneur, et tu guéris le malade. Tu viens maintenant, Seigneur, et tu nous délivres de notre incrédulité. Tu viens maintenant, Seigneur, et tu nous donnes la foi. Tu nous donnes la foi, tu nous permets de croire que tu vas agir, que tu vas te glorifier. Seigneur Jésus, viens. Ne viens par ton esprit. Inonde-nous de ta présence. Inonde-nous de ton onction. Viens et remplis-nous de feu. Nous réalisons que nous marchons dans une vallée d'ossements. Nous réalisons que nous marchons dans un monde qui n'a plus d'espoir, dans un monde qui est désespéré, dans un monde qui ne croit plus, dans un monde qui est malheureux. Nous réalisons que les gens meurent dans leurs fautes, les gens meurent dans leurs péchés, les gens meurent sans espoir. Et quand nous leur parlons de toi, ils ne croient pas. Quand nous leur parlons de toi, ils doutent encore. Quand nous leur parlons de la croix, ils n'arrivent pas à visualiser, à croire que c'est vrai. Ils n'ont aucune vision devant leurs yeux, ils n'ont aucune espérance dans leur cœur. Seigneur, change cela au nom de Jésus. Change cela au nom de Jésus. Et manifeste-toi pour ta gloire. Guéris le malade, guéris le malade. Manifeste-toi, Seigneur, guéris le malade. Je prie pour le croyant, l'enfant de Dieu, qui est malade ce matin. Guéris-le au nom de Jésus. Tu rends la vie à ces os qui sont desséchés. Tu rends la vie à ce cœur qui est désespéré. Tu rends la vie à cette âme qui est sans dessous dessous, à cette âme qui est totalement dans le découragement. Tu rends la vie. Pardonne notre incrédulité, pardonne notre manque de foi. Et arme-nous pour le combat. Encore, Seigneur, nous voulons vivre dans la victoire. Nous voulons vivre dans la puissance que tu révèles à tes enfants. Parce que c'est cela la plénitude de l'Esprit. Tu as dit que tu donnerais à l'Église le don de la foi. Non, manifeste-toi sur tes enfants. Manifeste-toi dans le cœur de tes enfants. Chasse l'incrédulité. Ah, rallume le feu, rallume la flamme du don que tu as déposé dans nos cœurs. Et que ton nom soit glorifié. Amen, amen, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen, étends ta main, ne guéris encore, délivre encore. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ne tu communiques la foi à nos cœurs et à nos vies maintenant. Nous voulons dire à ceux-ci qu'aux morts, ne se déraciner, d'aller se planter dans la mer. Nous voulons dire aux montagnes qui nous empêchent d'avancer, de disparaître de devant nos yeux et d'aller se jeter dans la mer également. Nous voulons croire à ta puissance, croyons à ton onction. Croyons à l'effusion de l'Esprit. Ah, que ces temps de rafraîchissement viennent sur ma vie, sur mon cœur, sur ma famille, sur l'Église, la famille de Dieu. Que les temps de rafraîchissement viennent dans cette ville de Gap, dans les Hautes-Alpes, dans la France entière. Sur le monde, répands ton Esprit et glorifie-toi, Seigneur. Amen. Amen. Ramène les rétrogrades par dizaines. Ramène ceux qui ont perdu la foi par dizaines. Attire-les à toi, Seigneur. Ramène-les à la croix. Le monde meurt, tu viens bientôt. Ramène-les encore. C'est un miracle que tu feras encore. Tu exauces notre foi maintenant. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rétablis ce qui est en train de se briser dans les familles. Tu sais que le diable s'est déchaîné sur les familles. Le diable s'est déchaîné dans les relations parents-enfants, dans les relations conjointes. Mais tu sais que jamais comme aujourd'hui, l'Église n'a souffert de divorce, l'Église n'a souffert de drames familiaux. Jamais comme aujourd'hui, il y a eu autant de drames. Mais change cela au nom de Jésus. Et raccommode ce qui est en train de se briser. Reconstruis ce qui est totalement détruit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais-le, fais-le, fais-le. C'est toi qui es maître dans ce lieu. L'Église t'appartient et nous t'appartenons. Un seul est digne de régner au milieu de nous. C'est toi, tu viens encore et tu agis au nom de Jésus. Amen.